16h52, salut Raphaël.
Salut Pat.
Donc là, écoute, on le voit dans les médias américains, là, on dit que Barack Obama et Donald Trump se lancent des flèches par rapport à la pandémie, mais Obama n'a pas lancé ça publiquement. Il a dit ça à des collaborateurs, puis c'est sorti, c'est ça? C'est en privé, là, ces commentaires-là.
C'est exactement ça. Ce qui se serait passé, en fait, c'est que vendredi soir, Barack Obama se serait entretenu au téléphone avec d'anciens collaborateur lorsque lui-même était à la Maison-Blanche et aurait qualifié lors de cette espèce d'appel conférence-là là, la réponse de l'administration Trump à la pandémie actuelle de chaos désastreux.
Et là, oui, mais le meilleur chaos qu'il y a jamais eu.
Oui, le meilleur chaos qu'on a jamais eu, mené par le plus grand génie stable qu'on a jamais vu également. Reste que le principal intéressé l'a pas trouvé drôle. Et lui ne s'est pas contenté de répliquer au téléphone en privé. Au contraire, il est sorti, comment tu vas l'avoir deviné, sur Twitter. Ça a pris à peine quelques heures. Et là, ce qui est assez spécial, ne serait-ce que pour l'intérêt même de Donald Trump, l'intérêt politique, c'est que Trump est allé attaquer Obama sur sa gestion de la grippe H1N1. Et il a ratissé plus large en embarquant le vice-président de Barack Obama, Joe Biden, qui évidemment se dessine pour être l'adversaire de Donald Trump pour l'élection de cette année. Et là, dans cette espèce de tweet, franchement un peu cinglé-là, Donald Trump dit que Obama et Biden ne savaient pas ce qu'ils faisaient lorsqu'il y a eu le H1N1. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles du H1N1, ça fait pas si longtemps que ça. Aux dernières nouvelles, ça avait fait 12 000 morts. Évidemment, en aucun cas, je veux sous-estimer le bilan. 12 000 morts, c'est 12 000 morts, c'est pas drôle. Mais on est rendu à plus de 80 000 présentement liés au coronavirus. Évidemment, je pense qu'une réponse normale à ça, ça serait de dire que ce ne sont pas les mêmes virus et que ni Barack Obama ni Donald Trump ne sont responsables de la nature de ces virus-là. Mais stratégiquement, c'est quoi l'idée pour Trump de mettre ça sur le tapis quand la comparaison est à son désavantage? Je pose la question.
Ben parce qu'il s'adresse à des gens qui sont pas informés.
Ça pourrait peut-être être ça. Écoute, l'autre chose qu'on doit mentionner, je pense, lorsqu'on parle de la réaction actuelle de l'administration Trump, c'est tout ce qui touche les masques. Parce que depuis un bon bout de temps, je sais que tu en parlais un petit peu plus tôt dans l'émission, là, dans un contexte québécois, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fera pas par rapport à l'imposition des masques. Mais là, ça fait un bout de temps aux États-Unis que le président et son équipe reçoivent beaucoup de pression pour y aller de façon plus musclée avec l'imposition de masques, incluant à la Maison-Blanche. Et là, ça a vraiment atteint un niveau particulièrement élevé dans les derniers jours, lorsqu'on a eu toute l'histoire, en fait, qui finit plus de pas finir, là, du personnel infecté à la Maison-Blanche au coronavirus. Parce que là, ce qu'on a appris au courant du week-end, c'est que c'était pas juste des membres du personnel de l'équipe du vice-président. C'était aussi, écoute bien ça, des membres des services secrets qui étaient infectés. Et apparemment, il y en aurait pas mal plus que ce qu'on pensait. Et il ne faut pas s'en surprendre. S'il y a une chose qu'on sait de ce virus-là, on n'arrête pas de répéter, on ne sait rien du virus. C'est pas vrai. Il y a des choses qu'on commence à savoir. Et l'une d'elles, c'est que c'est ultra contagieux comme virus. Tu le sais, je t'en ai parlé souvent à l'émission, juste dans les pénitenciers américains, comment ça se répand comme une traînée de poudre, cette affaire-là. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'une fois que ça rentre à la Maison-Blanche, ça se répand. Donc, beaucoup de pression pour qu'on impose le port du masque. Et là, finalement, ça aurait été fait. Donc, directive officielle venant de la Maison-Blanche dans les dernières heures, comme quoi tout le personnel va devoir le porter. Et je ne sais pas si tu as un téléviseur devant toi présentement, mais il y a un point de presse à la Maison-Blanche alors qu'on se parle et à peu près tout le monde en porte un.
En tout cas, la journaliste en porte, mais M. Trump n'en porte pas.
C'est ça. C'est tout le monde. Les journalistes, les membres du personnel, sauf le président des États-Unis.
Mais aux États-Unis, on en a parlé, Raphaël, il y a des gens en public qui se font engueuler parce qu'ils portent le masque.
Et c'est-tu quoi? Ce qui est très intéressant, tu me diras, c'est pas très surprenant, c'est que même le port du masque aux États-Unis s'est rendu une question partisane. J'ai vu une carte, écoute, c'est ahurissant, des États américains en fonction du port du masque ou non. Et je te jure, tu peux presque faire un calque, tu peux pratiquement calquer la carte électorale de 2016 sur la carte des États qui portent davantage le masque. Écoute, c'est presque la même chose. Les États qui sont plus démocrates sont ceux qui portent plus le masque. Les États qui sont plus républicains sont ceux qui le portent moins. Donc, même ça, c'est rendu une question idéologique et plus que ça, je te dirais, une question identitaire. Mais là, pour ce qui est de la Maison-Blanche, on serait quand même allé dans le sens de la pression populaire qui, clairement, est pour un plus grand port du masque en public.
Très bien, Raph. Merci. À demain.
À demain.
OK, à venir à l'émission, on avait fait la demande pour Chantal Rouleau, la ministre de la Métropole, qui était au point de presse où on nous annonçait plein de belles affaires pour Montréal-Nord. Elle peut pas. pas disponible. Donc, on va parler à Paul Robitaille, qui est la députée du coin, la députée libérale, va nous dire ce qu'elle pense du gros effort de communication, mais très, très peu d'action par rapport au dépistage à Montréal-Nord. Mais c'est très, très important de dépister à Montréal-Nord.